Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Eric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Dans son discours annuel au Congrès, le président Alberto Fernández a assuré que l'accord avec le FMI est déjà clos. Le Congrès argentin commence à analyser l'accord avec le Fonds monétaire international. Après 2 ans de pandémie, les cours ont commencé avec une pleine participation dans toute l'Argentine. Honduras, la Cour suprême confirme l'arrestation de l'ancien président Juan Orlando Hernández pour trafic de drogue. L'Argentine a demandé au Royaume-Uni de rétablir les vols vers les Malouines. L'Organisation des États américains confirme que des massacres ont eu lieu lors du coup d'État en Bolivie en 2019. Les féministes appellent à une manifestation du 8e sur fond d'indignation après un viol collectif à Buenos Aires. L'Argentine va construire un nouveau satellite de communication. Lula da Silva confirme sa candidature à la présidence du Brésil. Le président Alberto Fernández a assuré que l'accord avec le FMI est pratiquement bouclé et a écarté la possibilité qu'il implique un ajustement des dépenses publiques et un assouplissement du droit du travail. Selon ce qu'il a révélé, les détails du pacte pour faire face aux près de 44 milliards de dollars que le fonds a accordé en 2018 au gouvernement de son prédécesseur Mauricio Macri sont en cours de finalisation. Dans son discours annuel devant le Congrès, mardi, le président Fernández a exigé que la justice enquête sur les circonstances dans lesquelles le prêt a été demandé. Dans un discours de 2 heures diffusé sur toutes les chaînes de télévision et les stations de radio, le président argentin a fait le bilan de ses 2 premières années de mandat et a exposé les politiques et les plans pour 2022. Il a souligné la reprise de l'emploi enregistrée l'année dernière et des salaires par rapport à l'inflation qui ont dépassé 50% en 2021. Il a également appelé à une minute de silence pour les victimes de l'attaque contre l'Ukraine et a déclaré que la paix du monde a été perturbée par l'invasion militaire russe. Le Congrès argentin commence à discuter de l'accord avec le Fonds monétaire international. Le pacte vise à renégocier un prêt de 44 milliards de dollars que le FMI a accordé au gouvernement de l'ancien président Mauricio Macri en 2018. L'initiative est entrée jeudi à la Chambre des députés où elle sera analysée par la Commission du budget. Selon certains médias, la Maison Rose souhaite que l'accord ait force de loi avant le 22 mars, date à laquelle l'Argentine devra verser au fond une échéance de 4,8 milliards de dollars. Le 2 mars, les cours ont commencé en Argentine avec une pleine participation après 2 années d'interruption, de restrictions et de classes virtuelles dues à la pandémie de coronavirus. 13 millions d'élèves sont retournés en classe dans presque tout le pays, puisque la ville de Buenos Aires et la province de Mendoza ont commencé l'année scolaire la semaine dernière. Pour cette période, les systèmes d'espacement et de bulles qui ont marqué 2021 ont été supprimés. Seule l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés reste en vigueur. Il convient de mentionner que les cours n'ont pas commencé le 2 mars dans les districts de Jujuy, Santa Fe, Chubut et Río Negro en raison d'une grève des enseignants qui réclament des salaires plus élevés. Au Honduras, la Cour suprême a ratifié la détention de l'ancien président Juan Orlando Hernández, accusé de trafic de drogue. La plus haute juridiction hondurienne a décidé à l'unanimité que l'ancien président devait rester en prison en attendant qu'une demande d'extradition des États-Unis soit résolue. Selon la justice américaine, Hernández a fait le trafic de quelques 500 tonnes de cocaïne pendant son mandat, qui a pris fin en janvier dernier. Le frère de Hernández purge déjà une peine aux États-Unis pour trafic de drogue. Buenos Aires a renouvelé sa demande au Royaume-Uni de rétablir des vols réguliers à destination et en provenance des îles Malouines avec une escale sur le continent argentin. La demande a été formulée officiellement par le ministère argentin des Affaires étrangères dans une note envoyée à l'ambassade britannique. Le message demandait la reprise des services réguliers entre la ville chilienne de Punta Arenas et les îles avec 2 escales mensuelles à Río Gallegos dans la province argentine de Santa Cruz en Patagonie. La connexion a été interrompue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et n'a pas encore été rétablie. Selon le ministère des Affaires étrangères, les vols sont nécessaires non seulement pour les habitants des Malouines, mais aussi pour les parents des soldats tombés pendant la guerre de 1982 qui souhaitent se rendre au cimetière de Darwin. Pour l'Organisation des États américains, un massacre a été commis lors du coup d'État en Bolivie en 2019. Celle-ci a été établie par le groupe interdisciplinaire d'experts indépendants convoqué par l'OEA. Dans un rapport, il indique qu'à Sakawa et Senkata, la police et les forces armées ont perpétré des actes de violence pouvant être qualifiés de massacres. Dans ces villes, elles ont réprimé les manifestations en faveur du président de l'époque, Evo Morales, qui était renversé et a dû s'exiler. Un grand nombre de citoyens qui protestaient pacifiquement ont été tués, a déclaré l'un des experts, Julian Burger, en présentant le rapport à l'OEA à Washington. Plus de 20 personnes sont mortes à Senkata et Sakawa en novembre 2019, alors que Morales avait déjà quitté la Bolivie et que Jeanine Áñez avait pris le pouvoir en tant que président de facto. Des collectifs féministes appellent à une manifestation à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8M, sous le slogan « Récupérer la rue ». Ce sera la première mobilisation après 2 ans de pandémie de coronavirus qui a limité les rassemblements et les événements de masse. Cet appel intervient dans le contexte de l'indignation suscitée par le cas d'une jeune femme qui a été violée ce week-end par un groupe d'hommes dans une voiture, en plein jour, dans la ville de Buenos Aires. 6 personnes âgées de 21 à 24 ans ont été arrêtées. Le groupe féministe Ni Una Menos, pas une de moins, a prévenu que cette affaire mettait en lumière une scène d'impunité. Pour sa part, la ministre de la Femme, du Genre et de la Diversité, Elizabeth Gómez-Alcorta, a critiqué l'expression « viol collectif » que certains médias utilisent pour décrire l'agression sexuelle. Pour elle, ce n'est pas une bête, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un troupeau, et ses instincts ne sont pas irrépressibles. L'Argentine va construire un nouveau satellite de communication qui fournira des services à la région. C'est ce qu'a annoncé le président Alberto Fernández dans son discours annuel au Congrès, où il a anticipé le développement d'ARSAT SG2, qui, selon lui, exportera des services à valeur ajoutée en Amérique du Sud et fournira des solutions de connectivité à large bande. Il s'agit du 4e satellite construit par la société argentine ARSAT. L'un des objectifs du projet, selon Fernández, est de décupler le trafic à large bande en Argentine. L'ancien président du Brésil, Lula da Silva, a confirmé qu'il se présentera aux élections générales du 22 octobre. Il a fait cette annonce lors d'une visite au Mexique, où il a été reçu par le président André Manuel López Obrador. « Nous avons l'intention de nous présenter aux nouvelles élections au Brésil », a déclaré le dirigeant de gauche. Selon les sondages, Lula devance largement l'actuel président, l'ultra-conservateur Jair Bolsonaro, qui brigue la réélection. Lula a déjà gouverné le Brésil pendant 2 mandats consécutifs entre 2003 et 2011.
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista. O tal vez me muera acá.
2022, c'est l'année des 40 ans de la guerre des Malouines. Nous en avons déjà parlé, mais semaine après semaine, je continuerai de vous apporter des témoignages sur le conflit déclaré après que la dictature de l'époque a débarqué le 2 avril dans les îles de l'Atlantique Sud, l'une des peu de colonies qui restent de la Grande-Bretagne sur la planète.
2 avril 1982, 4h du matin. Les caméramens de la marine argentine filment l'invasion des îles Malouines. Les premiers à toucher terre sont des hommes grenouilles venus d'un sous-marin, suivis du corps expéditionnaire argentin. Pour l'Argentine, c'est un jour historique.
En tant qu'Argentin, j'étais très ému. Et aussi en tant que professionnel, bien entendu. Ému en tant qu'Argentin, car j'étais très fier de participer à la récupération des îles Malouines, qui étaient restées si longtemps sous domination britannique.
This is the Falklands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you?
I had a quick look down through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening, but there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking, it's a bit nerve-wracking to say the least, there's a lot of machine gun fire and...
On était tous extrêmement inquiets. On se demandait ce qui allait nous arriver, si on allait être tués ou emmenés en Argentine. On avait tous entendu parler du régime, du gouvernement militaire argentin et de ce qu'il avait fait à son peuple. On savait qu'il voulait les Malouines. On ne savait pas ce qui nous attendait.
À 7 heures du matin, après de violents combats, le siège du gouvernement est complètement encerclé.
La grande différence entre nous et la marine britannique, c'est le manque de motivation que personnellement j'ai perçu dans ces actions. Or, la motivation provient avant tout de la cause qu'on défend. Nous, nous défendions ce qui nous appartenait. Eux, en tant que militaires et en tant que professionnels, défendaient ce qu'on leur avait demandé de défendre.
En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino y que está...
À l'époque, les Malouines sont une cause nationale en Argentine. Dans les écoles, on parle aux enfants de leurs terres perdues. On leur explique comment les Britanniques leur ont volé ces îles en 1833.
Este mapa...
Et on leur montre qu'elles font partie du plateau continental argentin. Vu d'Amérique latine, les prétentions britanniques sur les Malouines paraissent absurdes. Une dictature, aussi impopulaire soit-elle, serait acclamée si elle parvenait à les récupérer. À Buenos Aires, la nouvelle du débarquement est accueillie par des foules en délire. La violence du régime militaire, la crise économique, du jour au lendemain, tout est oublié. Le rêve national de réoccuper les Malouines est devenu réalité.
Je ne vous cacherai pas que ce fut une immense joie, aussi immense que l'émotion que nous avons ressentie en voyant la place de Mai se remplir et tout le monde applaudir la décision, toutes tendances politiques confondues. En voyant que même les syndicats qui avaient fait grève quelques jours plus tôt et défilé sur cette même place applaudissaient et soutenaient la position de l'Argentine. Je ne vous cacherai pas que ce fut l'un des moments les plus émouvants et les plus importants de ma vie.
À Londres, on crie au scandale. Comment le gouvernement a-t-il pu permettre l'invasion d'un territoire britannique ? Au Parlement, les séances sont houleuses et rapidement suivies de démissions.
It is a national humiliation, and I have been responsible for foreign affairs, and I do not think it is right that when that happens, the minister responsible should just go on as if nothing had happened. And I think that the honourable thing to do is to resign.
C'est un coup porté au prestige de la Grande-Bretagne. Le gouvernement fait appel à l'armée.
On était tous persuadés que ce serait fini avant qu'on arrive. On imaginait quelques troupes sur une petite île qui détalerait en voyant arriver la Royal Navy, et on n'en parlerait plus.
On se demandait pourquoi on va aller envahir un pays qui doit être au nord de l'Écosse, car personne ne savait où se trouvaient les Malouines, en tout cas pas moi.
Pendant des années, j'avais dit que si jamais une guerre se déclarait, je repartirais à la nage à Belfast où je suis né. Pas question de faire la guerre. C'est pas pour ça que je m'étais engagé. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, si, il faut que j'y aille. Les contribuables me paient un salaire depuis des années, et pour une fois, ils m'appellent. Ils nous appellent tous.
Lorsque le corps expéditionnaire britannique franchit les tropiques en direction du sud, peu à bord s'imaginent partir faire la guerre.
We had to learn Spanish.
On devait apprendre l'espagnol. En gros, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est Manos Arriba et Rendase, ce qui veut dire les mains en l'air et rendez-vous. On ne voyait pas l'intérêt d'apprendre des phrases du type « je me rends ».
Pendant ce temps, les Malouines se transforment en camp militaire. Des milliers de jeunes appelés arrivent d'Argentine.
Quand je suis entré dans la ville pour la première fois, je me suis rendu compte que tout était en anglais. Il n'y avait rien d'argentin. Il y avait juste une citerne de la compagnie pétrolière YPF qui me rappelait mon pays. Il m'est arrivé une anecdote amusante. On a trouvé une petite clé. Dessus, il était marqué « Made in England ». On se disait « Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je ?» On se croyait parti pour défendre les gens de là-bas, en tout cas c'est ce que moi je croyais, et on découvrait des étrangers. C'était à se demander si les envahisseurs étaient ceux qui vivaient là ou ceux qui arrivaient.
Malvinas Operation Theater Command, communique number 4, guarantees the continuity of the way of life of the people of the islands, respect for private property, freedom to enter, leave or remain on the islands. Furthermore, the population is exhorted to continue normally with their activities.
Je suis très fier de pouvoir dire que durant toute la période que nous avons passée dans les Malouines, et en dépit de l'augmentation du nombre de soldats, qui donnait à Puerto Argentino l'allure d'une petite île au milieu de 10 000 soldats, aucune infraction ni tentative d'infraction n'a été commise. On n'a déploré aucune agression physique, seulement quelques cas de violation de domicile. Ces cas ont donné lieu à des conseils de guerre et à des sanctions appropriées d'officiers, de sous-officiers ou de soldats.
Les États-Unis n'ont aucune envie d'une guerre entre deux de leurs alliés les plus proches.
C'était un conflit en tout point étrange. L'affaire semblait beaucoup moins importante que ne le manifestaient les deux camps. Les îles Malouines ne semblaient pas, en elles-mêmes, objectivement très importantes. Je crois pouvoir dire que c'était la vie de tous. Et pourtant, tout à coup, elles étaient devenues l'objet d'un conflit et d'une tension énorme.
Alexander Haig se démène pour trouver une solution négociée. David Gompert a fait partie de sa mission de conciliation.
Le souvenir le plus marquant de cette rencontre à Londres, c'est Madame Thatcher. Sa façon de présider le cabinet de guerre et de parler au nom de la Grande-Bretagne dans les négociations. Elle laissait d'autres qu'elle exposer certains aspects dont ils étaient spécialistes, mais dans tous les cas, elle avait le dernier mot. Et parfois, elle passait clairement outre la décision d'un haut responsable de son cabinet.
Elle n'a jamais eu le moindre doute. Il est arrivé que certains d'entre nous, à un moment ou à un autre, se disent « Ne devrions-nous pas céder un peu plus ? Cela ne permettrait-il pas d'éviter le problème que nous n'avions pas encore affronté ?» Celui d'un débarquement sur les Malouines. Elle était très déterminée.
À Londres, l'ambiance n'était pas vraiment à la négociation. La position britannique était simple. Des troupes étrangères occupent un territoire qui est sous la responsabilité du gouvernement de Sa Majesté. Ce dont il s'agit, c'est du retrait de ces troupes, pas d'une négociation des conditions de ce retrait. Ce sont à peu près les seuls encouragements que nous avons reçus de Londres.
À bord des vaisseaux britanniques, l'ambiance change à mesure qu'ils progressent sur les eaux tumultueuses de l'Atlantique Sud. Plus ils se rapprochent des Malouines, plus la préparation militaire s'intensifie. J'étais convaincu qu'on allait se battre. J'ai beaucoup trop d'imagination pour jouer les va-t-en-guerre ou les casse-cou. Et mon commandant de compagnie, John Kisley, pensait la même chose. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue en regardant une photo qu'on venait de prendre de toute la compagnie. Il m'a dit, c'est triste, mais si on prend la même photo à notre retour, certains de ces visages ne seront plus là. À Buenos Aires, la mission de conciliation rencontre un accueil très mitigé.
It is clear tonight that the task will not be easy. But the stakes are so great that they demand the ultimate effort on the part of all participants in these discussions. Thank you.
Dans la rue, c'est l'euphorie. La junte au pouvoir s'engage à ne jamais rendre les Malouines. L'Argentine ne renoncera jamais à ses droits naturels sur ce territoire.
Il y avait dans leur attitude une espèce de légèreté, comme s'ils n'étaient pas vraiment sérieux, comme s'ils n'avaient pas pris la mesure de ce qu'était une guerre. Ils n'avaient pas conscience de la tragédie que constitue une guerre et la perte de vies humaines. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient être vaincus. Comme je n'ai pas manqué de leur souligner, ils étaient certains de perdre. Ils n'avaient aucune expérience de la guerre et ils allaient combattre l'une des premières grandes puissances mondiales. Ils ne parvenaient même pas à aborder le problème sérieusement. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il était évident à ce stade qu'ils avaient décidé de faire la guerre seulement parce qu'ils étaient incapables de prendre, ensemble, la décision de ne pas faire la guerre.
C'est notre incapacité à parvenir à un accord, à trouver un terrain d'entente à Buenos Aires, qui a levé le dernier obstacle et permis aux deux armées de se déclarer la guerre. Et à la tuerie de commencer.
Nous sommes le 1er mai. La Grande-Bretagne lance une attaque aérienne contre les positions de l'Argentine autour de Port Stanley.
On était sans doute beaucoup trop confiants. Le sentiment général se résumait à « donnons une bonne raclée aux Argentins » et très vite, ils se raviseront et diront « c'est bon, on s'arrête là ». Et ça sera fini.
Mais l'Argentine n'est pas sans moyens face à la task force britannique. Elle a aussi une marine puissante, déterminée à débusquer la flotte britannique pour la détruire. Elle a acquis de nouveaux navires de guerre équipés de missiles modernes. Mais sa plus grande fierté est le croiseur USS Phoenix, datant de la Seconde Guerre mondiale et rebaptisé du nom de l'un des plus grands héros argentins, le général Belgrano. Le sous-marin nucléaire Conqueror patrouille l'Atlantique Sud depuis 15 jours et suit le Belgrano depuis 2 jours. Le 2 mai, à 16h, sur ordre direct de Londres, le sous-marin britannique lance 3 torpilles sur le croiseur. Deux touchent leur cible.
Esa primera explosión fue.
C'est la première explosion qui a provoqué le plus de morts dans le vaisseau. On estime à environ 275 le nombre de victimes de l'explosion elle-même, de l'onde de chaleur et de l'inondation progressive de tous les compartiments. Quatre secondes après le premier impact est survenu le deuxième, à 15 mètres de la proue, de telle manière que l'avant du navire sur 15 mètres a disparu dans la mer. J'ai pris la décision d'ordonner l'abandon du navire. Pour le commandant d'un navire, c'est la décision la plus importante et la plus tragique de toute sa carrière.
On se sent impuissant car on sait qu'il y a encore des hommes en bas, mais qu'on ne peut pas les sortir de là. Même si on y est pour rien, on se sent impuissant. Il fallait déjà s'occuper du pont et des brûlés qui s'y trouvaient pour essayer de les transporter dans les canaux. On est triste de ne pas pouvoir le faire.
Vous saviez qu'en bas, il y avait vos collègues ?
Oui.
Vos amis ?
Certains l'étaient, oui.
Et vous ne pouviez vraiment rien faire ?
Rien.
Con el casco y con las botas. Ni siquiera se marchar.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.
Hay más miedos como el mío en la ciudad.